science-fiction et pistolaire du psychanalyste Jacques Nassy, publié en 1989 chez RS, un agréable parfum de cette résistance toutescotienne, teintée à la fois de modestie et d'humour. Malgré sa dédicace, c'est un analyste se disant très concerné par ce qui se passe en Belgique. L'auteur ne peut ignorer la portée plus générale de son propos du cas italien avec la loi 56-89, dit Otici, liée à celui de la France avec le décret controversé sur les psychothérapies. Cet échange de lettres réelles ou supposées auquel s'ajoute dans cette nouvelle publication, trois missiles inédits, s'élèvent efficacement contre les risques et les menaces relayées par une actualité brûlante qui pèse sur la pratique de la psychanalyse. Sinon, sur la psychanalyse elle-même, comme en écho à l'un des écrits les plus didactiques de Sigmund Freud au cours du printemps 1926, Freud avait déjà rédigé un opuscule sur la question des analystes non-médecins sous la forme d'un dialogue imaginaire avec un interlocuteur impartial en vue de défendre et d'illustrer la psychanalyse dans son principe fondamental. Sciences soucieuses d'une captation larvée ou d'une annexion pure et simple de son domaine d'activité, la psychanalyse est une, son savoir est autre que rien, rappelle Michel Schneider dans un appendice exigeant à l'ouvrage de Freud. Jacques Nassif consacre quant à lui sa filiation freudienne dès le prologue. Il se fait fort de compliquer la tâche des éventuels enquêteurs sur l'identification de son interlocutrice, tout comme Freud, après avoir détruit plusieurs de ses manuscrits en avril 1885, s'en amusait à propos de ses futurs biographes. Finement suggéré ou plus manifeste, mais favorisant toujours la vulgarisation intelligente de sa pensée, les réflexions du clinicien de Bruxelles et de Barcelone ne laissent rien passer au fil de ses presque 200 pages. En premier lieu, la place de la psychanalyse au regard des autres savoirs, sinon celui du maître Lacan, aux énonciations fulgurantes, mais aussi aux énoncés parfois ambigus, sinon contradictoires, tandis qu'il regrette les redondants commentaires ratiocinants de certains de ses élèves. À la star de Freud, qui rappelait dans son ouvrage précité que le médecin acquiert en école de médecine une formation qui est à peu près le contraire de ce dont il aurait besoin pour se préparer à la psychanalyse, l'auteur replace avec justesse la perspective thérapeutique, celle qui ne doit pas tuer la science, disait Freud. Il tape ici sur les analystes qui requièrent des protocoles contractuels dits d'une nouvelle perversion, là sur des directeurs de conscience, usurpant comme aux États-Unis le nom de la pratique accréditant l'existence de l'inconscient, tout en dénonçant au passage la forfanterie qui consiste dans certaines universités à décerner des doctorats de psychanalyse. Outre l'obligation pour l'analyste de se faire analyser à fond pour se rendre capable, comme le rappelait Freud, d'accueillir sans parti pris le matériel analytique, le fondateur des cartels constituants de l'analyse quotidienne admet les nombreuses voies, les saints et les chapelles qui mènent à la psychanalyse, multiples passages peut-être pas inutiles, étant donné l'excessive solitude dans laquelle un psychanalyste exerce son ministère. Le dispositif traditionnel du divan et du fauteuil vise toujours à épurer la parole de toutes les adhérences qu'elle entretient avec le regard et à faire entendre ce qui se dit derrière toute demande. Un décentrement, un détour à pas de côté, dit Jacques Nassif, dans des formules non dénuées de pythagorisme, qu'implique la démarche analytique afin de permettre à l'âme de l'analysant de tourner un peu moins autour d'elle-même et un peu plus autour du soleil, alors que la lecture du dialogue produit peu à peu ses effets sur lui à l'image d'un involontaire psychique lié au phénomène palpable du transfert. La redoutable question financière se